Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur les 2 ans de gestion du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Nous avons 3 invités pour débattre donc de cette question. Un analyste politique, Baba Dakono, et un représentant de la majorité et un de l'opposition, Boulan Barrow du CENI de Faso Iriwaton, parti de la majorité présidentielle, Maître Ibrahim Kramoko Koulibaly de l'URD, parti de l'opposition. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité et bienvenue à cette émission. Je suis Famoussa Sidibé, Nuhum Diré est à la technique.
Studio Tamani.
Héritier d'un Mali fortement secoué par la crise politico-militaire, le président malien s'est fixé comme objectif prioritaire absolu dès son accession au pouvoir, donc la reconstruction du tissu social abîmé, déchiré par 2 ans de crise politique. Il réunit le 16 septembre à Bamako, conformément à l'accord politique préliminaire, pardon, de Ouagadougou, les groupes armés pour renouer le dialogue avant de tenir les états généraux, donc, de la décentralisation le 22 octobre 2013. Malgré les péripéties, Ibeka et son gouvernement obtiennent un accord au bout d'un an de négociations. Les pourparlers de paix ont donc étouffé, selon de nombreux observateurs, les chantiers du progrès social et économique. La gouvernance d'Ibeka, c'est aussi et surtout les scandales de corruption à répétition. 2 ans après, où est-ce que nous en sommes? La première question sera donc posée à Boulan Barrow du CENI de Faso Iriwaton, parti de la majorité présidentielle.
Bonjour.
Bonjour. Deux ans après,
oui.
Où est-ce que nous en sommes avec le bilan du président Ibeka?
Merci beaucoup. Je salue tous nos
les invités.
Baba Dakono et Maître Karamoko Koulibaly de l'IRD, de l'opposition. Je salue aussi le studio Tamani pour avoir favorisé ces cadres d'échange sur la. Nous permettre d'échanger sur la vie de la nation. Alors, vous me parlez des bilans. Je ne pense pas que l'heure n'est pas au bilan. On peut évaluer
l'erreur du bilan. Le président Ibeka l'a
le bilan,
affiché lors de son interview.
Le bilan, c'est 5 ans. C'est 5 ans. On peut dresser le bilan au bout de 5 ans, mais on peut évaluer à partir de 2 ans.
Donc moi, l'évaluation que nous faisons,
je peux dire qu'on a le cap est bon. Le cap est bon. Au cours du débat, on peut démontrer que le cap est bon.
Alors, quelle est la vision de l'opposition par rapport à ces 2 ans de gestion du président Ibrahim Boubacar Keïta, Maître Ibrahim Kramoko Koulibaly, de l'URD?
Je voudrais, avec votre permission, rectifier. C'est Maître Boubacar Kramoko Koulibaly.
Autant pour moi. Boubacar.
Maître Boubacar Kramoko Koulibaly.
D'accord. Okay.
Je vous remercie d'avoir pris l'initiative d'organiser ce débat-là. Et j'en profite, courtoisie
oblige,
pour saluer les invités qui sont autour de la table ce soir et vous-même, l'organisateur, l'animateur.
Merci.
Et également saluer nos auditeurs et nos auditrices. J'ai entendu tout à l'heure M. Barrow dire que le cap est bon. Mais j'ai dit, si c'est ça le cap, je pense que d'ici 5 ans, le Mali n'existera plus parce qu'on va à la catastrophe si on continue comme ça. Et c'est une déception totale, les 2 ans. Déception totale. L'arbre ne peut cacher la forêt. C'est pas parce qu'on négocie pendant 1 an qu'on doit se détourner des autres chantiers de la République. Cela ne peut être un argument recevable. Donc, si j'ai à noter, je dirais 0 sur 20.
D'accord. Alors, la vision donc de l'analyste à ce débat, Baba Dakono, quelle est votre vision par rapport aux 2 ans d'Ibeka, le bilan?
Merci Monsieur Silibé. Comme mes prédécesseurs, dire bonsoir à tous les auditeurs des studios Tamani. Merci pour l'invitation, pour l'occasion donnée de m'exprimer sur cette question. Je reprends par rapport à ce que Boulan dit, il dit le cap il est bon. Je pense que la plupart des observateurs aujourd'hui, ce qu'ils veulent c'est en fait connaître ce cap, savoir parce que c'est aujourd'hui il est très difficile de dire voici le cap. Du gouvernail Mali aujourd'hui parce qu'il est très peu perceptible. J'aimerais pas avoir été élève de maître Koulibaly, zéro, c'est un peu dur quand même. Mais c'est vrai que l'analyse à partir de la perception généralisée, c'est que on peut accorder le crédit qui reste encore beaucoup à faire, mais deux ans, c'est très important dans un quinquennat et ça aurait permis quand même de se connaître le cap qui est donné au pays. Et ça, la situation aujourd'hui donne raison aux analystes par anticipation qui disaient dès les premiers mois qu'on ne sentait pas, on ne parvenait pas à connaître la direction que prenait le sens de l'État. À l'époque, il a été beaucoup reproché qu'il était très tôt pour faire des analyses, il était très tôt pour faire le bilan. Mais aujourd'hui, après deux ans, on voit que ces analyses n'étaient pas précoces parce que jusqu'à présent, on ne parvient pas à déterminer exactement la direction que prend les choses aujourd'hui au Mali.
Alors, est-ce que vous considérez que cet accord obtenu entre le gouvernement et les groupes armés est une grosse victoire de la majorité Boulan Barrow?
Merci beaucoup. Bon, je ne parlerai pas en termes de victoire de la majorité, mais c'est une victoire du peuple malien. Quand je dis le cap est bon, on peut prendre secteur par secteur, on peut en développer. Vous avez bien, dans votre exposé linéaire, vous avez campé les décors. Vous avez contextualisé le débat. Il a hérité, nous avons hérité d'un État. De quel État? Parce qu'il y avait une rupture d'État. C'est pas comme un président est venu dans un État normal, il assure la continuité d'État. Mais il y avait une rupture d'État. Aujourd'hui, personne ne peut dire que au moins l'État n'a pas de visage. On a un État, on a un visage.
Mais quel est ce visage?
Ce visage, c'est quoi? C'est qu'il y a un président de la République, incontestable. Et incontesté. Il y a les institutions de la République sont stables. Quand ils venaient, mais il n'y avait pas une stabilité autour des institutions de la République. Aujourd'hui, tout le monde sait que quand le président Ibeka venait au pouvoir, que la chaîne, parce que c'est le domaine sécuritaire peut-être qui frappe trop les gens. Juste négocier, par exemple, pas les négociations. Le cap, c'était quoi? C'était d'opter soit d'aller vers un règlement pacifique, politique et juridique de la crise, soit d'aller vers un règlement militaire. Aujourd'hui, le cap, c'est quoi? C'est d'aller vers un règlement pacifique à travers une solution politique et juridique. Ça, c'est un cap. Mais les gens s'attendaient à un règlement militaire. Ça ne pouvait pas régler le problème. Ça, c'est un cap. Ça, c'est dans le domaine sécuritaire. C'est vrai, nous connaissons un peu quelques insécurités par-ci, par-là. Mais à la date d'aujourd'hui, les efforts sont faits pour indiquer ces difficultés. Dire que si nous continuons comme ça, il n'y aura pas de Mali. Moi, au contraire, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Et que les institutions de la République fonctionnent normalement. Quand l'opposition dit que si on continue comme ça, l'opposition a eu une chance inouïe. Le ciné de Fassou Diouaton a connu une période de l'opposition la plus difficile. Mais aujourd'hui, tout est en train d'être fait pour favoriser la liberté collective et individuelle.
Quand vous dites que le ciné a connu de moments difficiles, de quelle période est-ce que vous parlez?
Je parle de la période 92-2002, quand le ciné s'est inscrit dans l'opposition.
Où le président Ibrahim Boubacar Keïta était aux
était
affaires.
Était premier ministre. Il n'était pas aux affaires, il était premier ministre. Nous sommes assumés. Et aujourd'hui, nous l'accompagnons.
D'accord.
Sans complexe et sans complaisance.
D'accord. Maître Boubacar Karamoko Koulibaly, vous avez la parole.
Je vais rebondir. Non, il faut qu'on arrête de se payer la tête de ce peuple avec des bons mots. Il faut arrêter, il faut respecter les populations. Il faut respecter le peuple parce que lorsque l'on fait croire qu'on a les moyens, qu'on bande ses muscles, qu'on fait croire qu'on peut régler militairement une question, et qu'ensuite on se ravise, et également on traîne à prendre le pas, parce qu'on avait dit 60 jours après les élections, les accords de Ouagadougou avaient prévu la reprise des choses. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? On ne tremblera pas, je n'irai nulle part, je vais à mon rythme, je fais comme je veux. Mais après, nous sommes allés à Kanosa, après Kidal, le mai 21 mai, je crois.
Que après la visite.
C'est nous qui étions demandeurs. C'est nous qui étions demandeurs. Donc, nous ne sommes pas allés à cette paix dans les meilleures conditions. Et cette paix qu'on brandit tant, c'est encore une fois quelque chose qui a du plomb dans l'aile. De la signature, ou en tout cas de la première signature à la deuxième signature jusqu'à ce jour, je pense que les gens peinent à voir le début de l'installation de cette paix dans notre pays. Au moment où je vous parle, j'ai le même sentiment qu'un partenaire prend ses distances avec cet accord de paix.
Lequel ?
La coordination des mouvements de l'Azawad. Si vous avez vu leur communiqué d'hier.
Interdisant la tenue des
élections. Non, pas seulement ça. Le juriste que je suis retient l'état de l'Azawad. Ils ont fait un communiqué avec en tête état de l'Azawad. Et qui a ses organisations militaires. Et qui a même une région militaire. Ça veut dire que...
Est-ce que ceci n'est pas une dissension au sein de la CMA?
Non, ceci est une marque de défiance. Est une manifestation de défiance. Et c'est une prise de distance avec l'accord existant. Parce que, quel que soit ce qui se passe, ils ont demandé le report des élections. Ils peuvent ne pas obtenir le report. Mais s'ils font un communiqué, et oui, c'est intitulé État de l'Azawad, ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent plus dans la République du Mali.
Est-ce que ce communiqué signé donc d'un chef militaire peut engager toute la coordination?
Vous pensez que si ce n'était pas le cas, il l'aurait fait? C'est quand même signé du chef d'état-major adjoint, général adjoint de la CEMA. Et qu'à ce jour, je ne pense pas qu'il ait été démenti ou en tout cas qu'on ait remis en cause son communiqué. C'est ça la pratique de ce gouvernement-là, la fuite en avant.
Donc quel poids donnez-vous à cet accord?
Mais vous-même, évaluez, qu'est-ce qu'on a obtenu là? Que des bons mots, on a fait venir le monde, on a applaudi, même si on a même manqué de délicatesse vis-à-vis d'un des invités le 15 mai. Et après, bon, on s'est... Je dirais pas pantalonnade, mais quand même, on a tout fait pour essayer de rattraper. Et depuis, nous sommes les meilleurs avocats de la MINUSMA. Non, ce que je veux dire, c'est que cette paix-là, c'est une chimère. Hein? C'est une arlésienne. On court après elle. On court après elle, mais elle ne se matérialise pas. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça ne va pas dans ce pays-là. Même la mise en place des organes qui doivent donner une consistance, une réalité à cette paix-là, on n'arrive pas à les mettre en place.
En parlant donc du comité de suivi, nous allons observer quelques secondes de pause, ensuite nous reprendrons le cours de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les 2 ans du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Nous avons donc la participation de Boulan Baro du CENI de Faso Iriwaton, Baba Dakono, analyste politique, chercheur, et maître Boubacar Kramoko Koulibaly du parti URD, parti de l'opposition. Alors, je vous donne la parole pour clore ce que
parole.
Vous étiez.
Non, en fait, aujourd'hui, l'opposition dit que l'opposition doit se sentir à l'aise, l'opposition doit être heureuse. Mais vous savez, ce gouvernement-là ne nous a rien donné. Et nous n'avons rien demandé. Ce dont nous profitons aujourd'hui est le fruit de la lutte du peuple malien de mars 91. Même s'il se trouve qu'au sein de ce gouvernement-là, il y ait quelques ministres qui ont tendance aujourd'hui à contester la valeur historique de mars 91. Mais toutes les libertés dont on parle, la constitution de 1992, c'est le fruit de la lutte du peuple malien.
Alors, pour clore...
Donc, nous ne devons rien à personne. Ça, nous le devons au peuple malien. Alors, qu'on ne se méprenne pas, qu'on ne se méprenne pas. Parce que s'ils ont des dérives dictatoriales, c'est comme ça qu'ils montrent leur vraie face. Mais nous trouverons devant eux, nous trouverons sur leur route. Parce que on a combattu Moussa Traoré ici, à visage découvert. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on va reculer. Personne n'apprendra à devenir un dictateur sur notre dos. On ne laissera personne le faire.
Donc, pour donc clore, je retiens la dernière partie et je reviens là-dessus. Quand vous dites les acquis de mars 91, vous tenez à les préserver. Durant ce mandat de Ibrahim Boubacar Keïta, on a beaucoup vu le président Moussa Traoré. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de la part d'Ibeka de mettre Moussa Traoré en avant?
Mais à chacun son républicain. Il a traité le grand républicain. Il est à l'aise avec lui. C'est son droit. Mais moi, je ne suis pas à l'aise avec Moussa Traoré. Pour la simple raison que ce monsieur n'a pas le sens de l'humilité. Jamais. Aucun Malien ne peut dire qu'il a entendu ce monsieur présenter des excuses au peuple malien. Parce qu'on ne peut pas régner impunément. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on n'est pas au temps de la Révolution française où un roi a été jugé condamné parce que
au motif qu'on
ne saurait régner impunément. Mais je pense que le minimum, c'était de dire, en tant que dirigeant, responsable de ce pays, en tant que musulman, s'il s'est avéré que j'ai fait du tort à un citoyen de ce pays-là, de présenter humblement les excuses. Mais dire, moi j'ai pardonné. Alors, mais je ne demande pas pardon. C'est trop.
D'accord.
Alors maintenant, si le président de la République se sent bien en sa compagnie, que grand bien lui fasse. Voilà, ce n'est pas mon cas. Et je continuerai d'être vigilant, au même titre que d'autres camarades, par rapport à cela. On ne fera de cadeau à personne. Parce que, vous savez, il faut que l'opinion nationale le comprenne bien. Il y a le ministre porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas très longtemps, au sujet d'un de nos communiqués, d'ailleurs, à ce propos-là, on a même failli pousser l'ORTM, même au début.
Nous allons
en venir. Non, je viens. Parce que le ministre porte-parole du gouvernement à l'époque a dit que, dans d'autres pays, le communiqué qu'on a fait n'aurait pas été lu, n'aurait pas été diffusé. Et ce soir, vous avez entendu le frère du Sénat parler comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des tendances.
D'accord.
Hein, le régime commence à montrer son vrai visage.
D'accord.
Mais que nul ne se trompe là-dessus. Nous ne sommes pas encore amortis.
D'accord. Voilà. Alors, Baba Dakono, vous êtes analyste politique. Nous avons parlé de l'accord de paix. Nous voyons également la formation des militaires maliens. Est-ce que tout ceci doit être mis à l'actif du président de la République?
Avant de venir à ce sujet précisément, je vais quand même remettre deux ou trois propos dans leur contexte, contexte historique, parce qu'on le doit quand même à l'histoire. J'ai entendu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'État. Oui, je suis d'accord que en 2013, il y avait beaucoup de choses à faire, mais nous ne sommes pas inscrits dans la continuité. C'est assez difficile à comprendre parce que tout ce qui a été fait ces dernières années sont en fait des réalisations, des chantiers qui ont été mis en œuvre depuis des années. Parlant même du statut de l'opposition, puisqu'on en parle beaucoup, rappelez quand même que ce statut de l'opposition rentrait dans le cadre plus global du projet de réforme de politique du président de la République de l'époque. Tout avait été déjà fait. Malheureusement, le coup d'État intervenu en mars 2012 a interrompu le processus de mise en œuvre de ce chantier de réforme politique, autant sur le plan institutionnel, autant sur le plan des infrastructures. C'est qu'il faut rappeler quand même que beaucoup de nombreuses réalisations aujourd'hui sont le fruit de d'actes dont le chantier avait été mis en œuvre depuis 2010. Ça, c'était le petit rappel, le petit détour historique, si tenté est de mettre déjà 2010 dans l'histoire. Maintenant, sur votre question proprement dite de l'accord, je crois, et rappelez-moi le...
Oui, l'accord, la formation des bataillons de l'UTM.
Oui, donc tout ça, en fait, comme je le disais au début, il est très important. Il l'était déjà en 2013, quand le président de la République actuelle arrivait, de déterminer le cap, de déterminer une vision et d'inscrire tous les partenaires dans cette vision. Aujourd'hui, c'est encore plus important que hier. Par exemple, vous avez pris le cadre de la formation. Dans beaucoup de pays, on a vu en sortie de crise, beaucoup d'acteurs internationaux sont venus avec les formations. Dans un pays, à titre d'exemple, on avait une armée dont une partie avait été formée par les Russes, une partie par les Japonais, une partie par les Américains, une autre partie par une autre nationalité. Imaginez que cette armée se trouve sur le terrain. Ils vont pas se comprendre parce que
avec des méthodes différentes.
Ouais, avec des méthodes différentes. Donc ça c'est sous la question typique de la formation. Sur tous les autres points, chacun a son agenda. Au niveau des partenaires financiers, ils ont les impératifs de décaissement. Au niveau des autres, ils ont des enjeux géostratégiques. Donc on ne peut pas se laisser parce que ce qu'on constate, c'est qu'on est plutôt dans la réactivité. Telle situation se pose, on essaie de trouver la solution. Alors qu'il était plus loisible de définir un cadre dans lequel tous les acteurs allaient s'inscrire parce que le Mali allait... C'était ça la véritable restauration de l'autorité de l'État. Que le Mali prenne le lead sur toutes les questions qui concernent la gestion de son territoire, tant du point de vue politique que du point de vue de l'administration.
Ceci n'a pas été fait.
C'est très difficile parce que c'est très difficile de dire aujourd'hui que ça a été fait. Je prends l'exemple de vous savez aujourd'hui le Mali se trouve dans un espace géographique Sahel qui est très courtisé. J'ai un collègue qui a l'habitude de dire que c'est une demoiselle à la mode qui est courtisée par tout le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une demoiselle ne reste pas très longtemps à la mode et on doit aussi faire attention. Donc dans le cadre de ces enjeux sahéliens, on a remarqué que presque tous les partenaires du point de vue acteurs bilatéraux avaient des stratégies pour le Sahel. Et il était très important de coordonner toutes ces stratégies. Et ça a été, heureusement, il y a quelques mois, on a pu avoir un secrétariat exécutif pour la coordination de ces stratégies, mais ça a été très difficile. Pendant près de 18 mois, le Mali n'a pas pu affirmer ce leadership qui lui permettait d'inscrire tous les acteurs qui ont des stratégies Sahel sur le territoire malien. Ça, c'est juste un exemple. Sinon, sur beaucoup d'autres points, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on parle de MINUSMA, quand on parle de l'opération Barkhane. Tout ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit en matière sécuritaire, que ce soit appui aux collectivités, tout ce fait doit rentrer dans un cadre connu. J'ai entendu plusieurs fois le président de la République dire qu'il faut beaucoup de méthodes. Il a voyagé pour expliquer la direction, la vision du Mali sur ces sujets. J'ai été heureux de savoir qu'en fait, il y a de la méthode. J'ai été heureux de savoir qu'en fait, il y avait une vision, mais sauf qu'elle n'est pas quand même partagée, parce qu'on aimerait ça connaître quand même cette vision et cette méthode est seulement connue des seuls acteurs. Et c'est difficile aujourd'hui de dire qu'il y a de l'impact et que le Mali a restauré son autorité au terme de l'État et parvient à inscrire tous les partenaires dans la direction qu'il souhaite.
D'accord.
Et pour finir, revenir un peu en arrière par rapport
à ce que disait Boulan.
Oui, bon, à ce qu'il disait Boulan et à ce qui a été dit par rapport sur la question de l'accord, quand même rappeler que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup tergiversé un moment, mais il va sans dire quand même que l'accord, on se rend compte dans la mise en œuvre partielle aujourd'hui, que cet accord ne résout pas tous les problèmes, surtout les problèmes de fond. On a la chance de pouvoir aujourd'hui réunir les Maliens encore sur cette question pour pouvoir résoudre tous les problèmes de fond.
D'accord. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, maître. Mais en attendant, nous débutons donc le chantier du développement social et économique. Alors, les progrès sociaux ne sont pas nombreux, certes, mais il y a quelques-uns qu'on peut donc retenir, notamment la hausse graduelle du salaire minimum, l'alignement salarial contractuel fonctionnaire de l'administration publique. Alors, peut-on considérer tout ça comme étant des acquis aujourd'hui et nous voyons également que tout ceci n'a pas résolu le problème de la corruption au Boulan Barreau.
Ok, merci beaucoup. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'inscrive un peu dans l'historique. Parce que si on doit remonter jusqu'aux périodes de Moussa Traoré...
Ça, c'est le factuel que je viens de dire tout à l'heure.
Donc, pour moi, la paix, on a beaucoup parlé de la paix. Je tiens à dire aujourd'hui que la signature de l'accord n'est pas un décret pour la paix.
Ok, on a clos ce chapitre.
Oui, la paix, c'est un comportement.
D'accord.
Ah, d'accord. Donc maintenant, par rapport à ce que vous voulez souligner tout de suite, bon, apparemment... Vous n'avez pas posé de questions.
Si vous avez fait un commentaire,
des résultats que ce gouvernement a obtenu.
J'ai dit tout ceci n'a pas endigué le problème de la corruption.
Le problème de la corruption, c'est un, on ne peut pas, il n'y a pas une solution définitive. pour la corruption. Mais on s'inscrit dans une logique de réduire la corruption. Et je pense que là, tu interpelles la gouvernance qui a été mise en place. Parce que qui parle de corruption parle de la gouvernance. C'est peut-être qu'au départ, il y a eu quelques ratés, ça je l'ai dit, je le reconnais. Mais à la date d'aujourd'hui, la vision elle est claire. Le cap est bon en la matière.
En matière de lutte contre la corruption.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les meilleurs moyens de lutter contre la corruption, c'est la justice. Il faut se forcer à assurer l'indépendance de cette justice-là. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Aucun juge aujourd'hui ne peut être interpellé pourquoi il a... Non. Tous les dossiers, ça a été dit, tous les dossiers concernant la corruption ont été transmis à la justice. La justice, elle est indépendante. À elle maintenant de s'assumer.
Alors, certains observateurs ont décrié donc le fait que certains ministres s'immiscent dans les procédures judiciaires. Est-ce que vous trouvez cela normal?
Vous pouvez me citer un ministre.
Le ministre de la Justice en son temps, aujourd'hui
en son temps,
ministre de l'Urbanisme.
J'ai dit en son temps, j'ai dit bien. J'ai dit en son temps, mais aujourd'hui il est le ministre de l'Urbanisme. Je parle, nous sommes au bout des
Les affaires foncières, je dirais.
Moi, j'ai dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le cap est bon.
D'accord. Alors vous insistez
passé,
sur ce cap.
Si cela était un passé, ce n'est plus, ça ne date pas, ce n'est plus d'actualité.
Alors vous insistez sur ce cap. Voilà. C'est bien compris, Boulan Barrow du CENI de Faso Eriwaton, parti de la majorité présidentielle. Alors Maître Boubacar Karamoko Koulibaly de l'URD. Je viens de citer quelques acquis donc de l'UNTM par rapport au salaire minimum et également à l'alignement de salarial de fonctionnaires par rapport aux contractuels. Aujourd'hui, est-ce que tout ceci a endigué le problème de la corruption au Mali?
Je vous remercie, monsieur Sidibé. Vous savez, ce que vous venez de dire, j'ai vu l'avènement, effectivement, de la signature de ce document-là. Et il faut dire aussi que c'était une vieille quête, c'était une vieille demande, c'était un dossier qui était là. Mais c'est heureux que le gouvernement les conduit à ce niveau-là. C'est heureux. Quand quelque chose de bien a été fait, le bien a été fait, il faut le dire. Mais seulement l'essai n'a pas été transformé. L'essai n'a pas été transformé pour la simple raison que c'est un gouvernement justement qui ne sait pas partager, qui ne sait pas dialoguer, qui ne sait pas s'ouvrir aux autres. C'est le laisse-guidon. On n'a pas souci des autres. On est seul à détenir la vérité. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est les grèves intempestives. Au niveau des impôts, c'est inimaginable dans un pays organisé que le service de l'assiette soit, comment dirais-je, se mette en grève. Gabriel Touré, hier soir, vous l'avez vu, l'ORTM est devenu le spectacle des syndicats qui viennent tous les jours dire « Bon, nous avons retiré notre mot de grève, notre mot d'ordre de grève. » Alors, vous savez, ça, c'est le signe d'un malaise. Un malaise généralisé au niveau de l'administration. Un malaise généralisé au niveau des populations parce que ça, la vie est chère. Le citoyen vit mal. Les gens tirent la langue. Et vous parlez de corruption. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Tout le monde a suivi les événements que ce pays a connus. Des événements qui ont amené même le Fonds monétaire international à se redire à un certain moment. Et même si on dit ça va, vous savez, en économie, on ne peut pas tromper les gens. Les faits sont têtus en économie. La réalité finit toujours par rattraper. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. L'essai n'a pas été transformé. Un effort a été fait à un certain moment, mais ça s'est arrêté là. Et ce à quoi on assiste, c'est la malvie au niveau des fonctionnaires de l'État, au niveau de l'administration, au niveau des services. Rien ne va. Tout le monde aujourd'hui veut se mettre en grève parce que ça ne va pas. Et justement parce que ça ne va pas, pourquoi? Ils constatent, ça c'est le rapport du vérificateur général, moi je ne jette la pierre à personne. Parce qu'en tant que juriste, je sais que tout le monde est réputé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais le vérificateur a mis le doigt sur un certain nombre d'éléments. Avant lui, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec le fameux marché de l'avion, le fameux marché
des équipements militaires
et d'autres également ont suivi. Alors tout ça, quand même le petit peuple suit, et le petit peuple est sensible à cela. Il ne peut plus adhérer à, comment dirais-je, aux politiques d'un gouvernement qui ne sait pas se faire comprendre, qui ne se partage pas, qui n'est pas à l'écoute du peuple. Quand on n'est pas à l'écoute du peuple, quand on est à tête d'autisme, ben ça ne peut pas marcher. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai écouté le chef de l'État lui-même l'autre jour, qui a dit, je veux faire un effort désormais pour pouvoir être accessible. Alors, donc, je laisse l'opinion apprécier.
D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons la dernière partie de cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les 2 ans de gestion du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes avec 3 invités. Boulan Baro du CENI de Faso Yiriwaton, parti de la majorité présidentielle. Et Maître Boubacar Karamoko Koulibaly, parti URD, parti de l'opposition. Et Baba Dakono, analyste politique et chercheur. Alors, Badakono, vous avez la parole pour nous résumer en quelque sorte le progrès social donc enregistré par le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2 ans de gestion. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, des acquis au niveau des syndicats, mais également d'autres, notamment les inaugurations des infrastructures sociales de base. Alors, aujourd'hui, est-ce que tout ceci viennent à bout de la corruption au Mali?
Au début de votre propos, je me suis senti, j'ai dit, ben, c'est Boulan qui devait faire le résumé des acquis sociaux, quand même. Non, oui.
Puisque le cap est bon du côté de Boulan.
Ouais, puisque le cap est bon du côté de... Non, mais il y a quand même, il y a certaines choses qu'il faut remettre à l'actif de l'arrivée au pouvoir du président de la République actuelle. Le premier, je pense que c'est quand même la gestion de la junte militaire. Ça, c'est l'un des gros dossiers sur lequel il était beaucoup attendu. Je pense que jusque-là, le gouvernement a pu quand même mettre un terme à certaines. Et j'espère que la justice va faire son travail et que toute la lumière sera faite sur tout ce qui s'est passé pendant cette période. Donc, on va dire que le gouvernement a fait son travail et on attend la justice sur ce dossier. Cette épineuse question, vous avez parlé d'inauguration. Ce qu'on attend, c'est plus aujourd'hui des pauses, comme on dit, de première pierre, que d'inauguration. C'est vrai qu'on a beaucoup inauguré. Et même dans ces inaugurations, pour rappeler le dernier quand même sur l'attribution des logements sociaux, ne s'est pas passé sans scandale. À tort ou à raison, mais c'est quand même dans un contexte où on veut faire du social. C'est quand même difficile à comprendre que voulant faire du social, on crée aussi des cas sociaux,
des frustrations
à des niveaux où ça ne devrait pas apparaître. Donc, j'aurais quand même voulu que Boulan fasse plus le résumé des acquis sociaux. C'est vrai, l'UNTM, mais il faut rappeler que l'UNTM a commencé à faire du bruit sur des attentes qui n'auraient pas été comblées face aux dernières promesses du gouvernement. Donc, je vois la question de la gestion de la jeune, mais comme je l'ai dit, 2 ans, c'est très important dans un quinquennat, mais on va dire que il y a encore le temps de pouvoir fixer le cadre pour les prochaines années et que tout le monde se reconnaisse dans ça. Sur la question de l'accessibilité, je savais pas, je vais moi aussi envoyer ma demande d'audience.
Si je peux rebondir. Non, ça dit qu'il ne peut pas avoir de cap lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsqu'il n'y a pas de leadership. Mais c'est ça le drame du peuple malien. Parce que on ne voit le leadership nulle part. On ne voit de vision nulle part. Mais c'est pas possible. On ne peut pas comme ça gouverner comme ça. C'est pas possible.
Vous voulez réagir?
Je vais réagir naturellement. Je venais d'être interpellé par Dakono.
Allez-y.
Il venait de le dire tout simplement. Au moins quand on dit qu'il n'y a pas de leadership, il venait de le dire, un des aspects très importants du leadership du président de la République, qui est parvenu à mettre
qui a permis à mettre fin aux agitations de la jeune.
Vous pensez que c'est réglé? Mais il vient de le dire.
Oui, c'est réglé, à moins que. Ce que nous voulons dans ce pays, ce que nous voulons, il ne faudrait pas que les gens soient alarmistes. Toutes les choses bougent positivement. Maintenant, à condition que les gens s'inscrivent dans cette dynamique-là. Maintenant, l'opposition va jouer son rôle. Et c'est ça qu'ils vont continuer à l'armée qui dit rien, n'est-ce pas? Mais j'ai dit, le président, il est venu. Il a mis fin aux agitations de la jeune militaire. Au moins, il a donné un visage à l'État. À un moment donné, l'État a été mis entre parenthèses pendant la période de transition.
D'accord, c'est une parenthèse. Je vais donner la parole.
L'État du Mali n'est jamais allé nulle part.
Moi, je n'aime pas
le président Diokounda.
Je n'aime pas interrompre les.
Qui assure la transition.
La parole. Merci beaucoup. La parole est à Baba Dakono. C'était juste une parenthèse. La parole est à Baba Dakono. Baba Dakono, je voudrais vous entendre sur la corruption.
C'est vrai que sur la question de la justice, quand même, il y a très peu de résultats, même si on va dire que depuis l'institution du bureau du vérificateur général, c'est quand même les quelques fois où, même si ça se faisait dans le temps, ça se faisait quand même très discrètement. C'est-à-dire la gestion du rapport du vérificateur se faisait très discrètement, mais ces derniers temps quand même si on n'a pas les résultats souhaités, c'est que certains dossiers quand même qui découleraient du rapport du vérificateur général sont quand même transmis à la justice, même si on attend plus, parce que on a quand même vu des situations où des personnes auxquels on faisait beaucoup de reproches du point de vue de la justice, se retrouvaient d'un autre côté, mais toujours avec le pouvoir et avec beaucoup plus de responsabilités dans la gestion de l'État. C'est vrai que la corruption, c'était, après la question sécuritaire, l'une des grandes attentes du peuple au sortir des élections de 2013. Et là, la déception, elle est quand même perceptible quand on discute aujourd'hui avec les concitoyens qui pensent que en fait, rien n'a changé depuis des années. Ce sont toujours les mêmes pratiques et le régime n'a pas pu apporter des solutions qui puissent endiguer. Cela peut se comprendre dans la mesure où ceux qui doivent aujourd'hui faire la lutte contre la corruption sont les premiers bénéficiaires de la corruption. Tant sur le plan aujourd'hui des responsables, des premiers responsables étatiques, tant au sein de la population, parce qu'il ne faut pas ignorer la petite corruption aussi. Donc aujourd'hui, tout le monde profite à peu près de la corruption, et ceux qui doivent prendre les premières mesures pour lutter sont ceux qui profitent le plus. Donc on ne va pas s'attendre à ce qu'il y ait un retournement spectaculaire où tout le monde devient tout à coup honnête et va aller vers des solutions dans ce cadre.
D'accord.
Mais alors, on ne va pas quand même totalement fermer la parenthèse, sans que je fasse la précision.
Alors rapidement.
Hein. Rapidement, si vous voulez, que la gestion de la question de la junte et le leadership inscrit dans un cadre dans la durée, ça fait deux choses quand même, mon ami du
Boulambaro.
Donc oui, le gouvernement, je le rappelle bien, a pris des initiatives qui nous permettent de croire qu'il y a eu une bonne gestion de ce dossier. Et on attend toujours la justice, je l'ai rappelé.
D'accord. Alors, nous mettons fin donc à ce chapitre consacré à la corruption et au développement social. Alors, nous allons donc entamer le projet futur. Aujourd'hui, c'est l'application, la mise en œuvre de l'accord de paix qui est attendu par tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà, Boulambaro du Sénat Faso Iliwaton, comment est-ce que le gouvernement, la majorité présidentielle compte s'appliquer dans ce domaine?
Bon, dans le cadre de la mise en œuvre des accords, de l'accord d'Alger, le gouvernement sollicite l'accompagnement de toutes les composantes de la nation. À ce stade, il faudrait qu'on arrête de parler de parti majoritaire, parti opposition, non.
Alors concrètement, aujourd'hui, il y a une situation, celle d'Anefis, qui préoccupe, qui bloque même la mise en œuvre de l'accord. Comment est-ce que l'État va devoir gérer cette situation? Malgré l'intervention du président de la République, la plateforme peine toujours à quitter
Anefis. La plateforme, Anefis, selon leur déclaration, sont en train de se retirer progressivement. Maintenant, il y a aussi des inquiétudes par rapport à l'Érythrée. Parce que en tout état de cause, c'est cette population-là qu'il faut protéger. Nous avons, à un moment donné, on s'est battu pour l'intégrité territoriale. Mais il y a des populations qui vivent sur ce territoire-là. Alors, On ne veut pas que les Maliens soient divisés. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse en sorte aussi que les Maliens soient divisés.
Donc vous êtes pour que la plateforme reste où?
Si, c'est, si ça bloque le processus, alors que nous sommes inscrits dans un processus, si c'est le président qui bloque le processus, alors ils ont aussi l'intelligence de décider de se retirer. Alors on verra bien si leur retrait peut constituer un facteur de, déblocage pour le processus. D'accord. En tout cas, le processus est irréversible. Et j'invite chaque Malien à s'inscrire dans cette logique-là.
C'est compris. Alors, Maître Boubacar Kramoko Koulibaly de l'URD, parti de l'opposition.
Rapidement. Non, je disais tantôt, parce que j'entends mon frère de se dire l'État envisage l'État. L'État, c'est pas prendre l'avion, aller à New York, à Washington, et à Addis Abeba. C'est pas ça l'État. L'État, c'est d'avoir une bonne défense, c'est d'avoir la sécurité, et c'est d'avoir une bonne école, c'est d'avoir une bonne justice, et c'est d'avoir de bons administrateurs. C'est ça l'État. Mais c'est ce qui n'existe pas. C'est ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, à Bamako, les gens ont peur de sortir. L'armée. Lui-même, il est allé à Sikasso, il a dit, j'arrive pas à vous équiper. Par la faute d'une puissance étrangère qui m'empêche de vous équiper. Mais c'est grave, ça. On ne s'adresse pas comme ça à son armée. Il faut prendre des mots, tenir des propos que la troupe peut comprendre. Remonter le moral de la troupe, mais quel relèvement de morale peut-on faire lorsqu'on vient dans un camp et on dit à la troupe, j'arrive pas à vous équiper. J'arrive pas à vous équiper. Allez-y. Parce que je suis empêché de vous équiper. Mais même si on dit qu'on se battra pour le faire, je le souhaite ardemment.
Alors la mise en œuvre de l'accord.
La mise en œuvre de l'accord, mais je vous l'ai dit, depuis le début, le comité de suivi, est-ce qu'il a été mis en place? Vous savez, ce qui est grave, c'est le pilotage en vue, c'est le manque d'anticipation. Le manque d'analyse, le manque de vision. Tout le monde savait qu'Anéfis viendrait. Et après Anéfis, Kidal viendra. Parce que les Imgad du Gatia et les Ifogas de la SEMA sont tous originaires de Kidal. Menaka était le départ et Kidal sera l'épilogue. Aujourd'hui, on va les faire sortir d'Anéfis parce qu'on va mettre la pression. Mais je sais que ça n'arrêtera pas. L'État aurait dû, depuis Menaka, l'étape de Menaka, faire en sorte que Anéfis n'ait pas lieu, pour que demain Kidal aussi n'ait pas lieu. C'est ça qui n'existe
comment
pas.
Comment l'État pouvait donc éviter Anéfis?
Mais l'État pouvait très bien le faire, puisque les deux composantes étant de Kidal, et que les Ifogas ne veulent pas que les Imgad soient à Kidal. Alors, l'État pouvait très bien faire en sorte que les uns gardent, ou en tout cas fassent preuve de calme, en attendant que les conditions soient réunies pour que chacun puisse rentrer à Kidal dans, dans les meilleures conditions.
Merci beaucoup, Maître Boubacar Kramoko Koulibaly de l'URD. Alors, Baba Dakono, dites-nous aujourd'hui quel doit être le cap du gouvernement par rapport à la mise en œuvre de l'accord.
Non, c'est ce qui est extraordinaire dans la gestion de cette crise, c'est qu'au départ on parlait de plus gestion de la crise pour trouver une solution durable, sinon une solution définitive à cette crise. C'est qu'on est très étonné. De plus en plus,
on a plus de temps. Allez-y. Bon.
Ok, avant de rebondir, laissez-moi finir. Rebondissez comme vous voulez. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a quand même abandonné très vite cette idée de trouver une solution définitive à la crise et que on est allé comme par le passé, ça se faisait à des solutions, si vous voulez, intermédiaires. Aujourd'hui, s'il y avait le caractère inclusif qui était prévu dans l'accord préliminaire à l'élection présidentielle ou pour parler inclusif de paix, est très important et je crois indispensable. Même dans la phase actuelle du processus, tenter de croire qu'on est toujours dans le processus de paix.
D'accord.
Donc il est important de renouer les Maliens et que ce soit vraiment de discussion inclusive sur ces accords, tout en ayant l'esprit que les questions de fond n'ont pas été résolues. Ça a été rappelé tout
malheureusement tout à l'heure, c'est la fin de cette émission. Le temps imparti est terminé. Merci à vous, messieurs.
On a accompagné.
Merci à vous, messieurs.
Il y a majorité, il y a opposition. C'est votre responsabilité.
Merci à vous, messieurs, pour ce débat.
En tant que majorité.
Merci infiniment à nos invités pour leur présence. Boulan Baro du CENI de Faso Iriwaton, Maître Boubacar Kramoko Koulibaly de l'URD, parti de l'opposition, et Baba Dakono, analyste politique, chercheur. Je suis Famoussa Sidibé. Nouhoum Diré était à la technique. Petit Ndiara à la régie vidéo. Ousmane Diadé Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons bonsoir et à demain pour un autre débat.
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.